Mais oui, bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
Inventorier toutes les gammes musicales existantes depuis les débuts de l'histoire de l'humanité est sans doute mission impossible. Pourtant, si je vous dis Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, les notes de la gamme musicale vous viennent immédiatement en tête. Qui donc a inventé cette gamme qui donne au langage musical occidental son alphabet et quelles évolutions majeures a-t-elle connues? On retrace aujourd'hui en musique l'histoire d'une convention qui n'est qu'une possibilité parmi d'autres de faire de la musique et dont l'histoire regorge d'accords et de désaccords. Quand la gamme musicale donne le la, c'est l'invention bien tempérée au programme du jour. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous déchiffrer cette histoire de la gamme musicale, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Théodora Psikoiou. Bonjour.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes maîtresse de conférences en musicologie à Sorbonne Université et directrice de l'Institut de recherche en musicologie. Nous sommes également en studio avec Paul Lascabette. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant à l'IRCAM et créateur de la chaîne YouTube Math et Musique et vous serez notre pianiste du jour puisque devant vous se tient un clavier qui nous permettra d'illustrer de façon musicale les gammes, les quintes, les tierces, les accords, en tout cas dont on parlera tout au long de cette heure. Mais pour démarrer cette émission de façon harmonieuse, on va peut-être faire un petit tour du côté des sources et on va du côté de la Grèce antique où on invoque la muse. L'hymne à la muse par Gregorio Panagua et l'Atria Musicae de Madrid. Théodora Psikoiou, c'est pas un hasard si je vous propose d'écouter de la musique grecque ancienne. C'est que l'origine de la gamme musicale telle qu'on la connaît, telle qu'on la pratique en Occident, s'installe grandement dans la Grèce antique. Que doit-on à la Grèce antique en matière d'invention de la gamme musicale ?
On doit beaucoup de choses en termes de définition théorique et de pratique, mais la pratique, elle a été perdue en réalité. Ce qu'on vient d'entendre, l'hymne à la muse de Mésomède de Crète, une des rares vestiges rares mais qui existent de notation musicale, parce qu'on avait une notation musicale aussi à l'Antiquité. Donc beaucoup de, l'essentiel de la création musicale a été perdu. En revanche, on a un grand héritage théorique qui a irrigué l'Occident médiéval et puis Renaissance et même probablement sans doute même jusqu'à aujourd'hui sur le plan théorique. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à l'Antiquité grecque et la transmission est un petit peu sélective et on s'est beaucoup intéressé au modèle mathématiques. Donc, il se passe beaucoup de choses. Et effectivement, on a forgé en la personne de Pythagore cet archétype de l'inventeur de la musique. Et on lui doit, si je devais résumer cette chose, peut-être deux points à retenir. L'une, en effet, cette idée de cartographier l'espace musical en le structurant en termes de petites marches comme ça qui vont se succéder qu'on va identifier dans cette idée de gamme d'échelle ce thème qu'on cherche à analyser. Mais en amont, et là, il me semble que c'est une chose importante à essayer de comprendre, c'est de penser l'intervalle de musique. On va parler tout au long de cette émission de ton et de demi-ton, le quart, de quinte, on donnera peut-être quelques exemples tout à l'heure, de le penser en tant que proportion, c'est-à-dire un intervalle de musique, ce n'est pas une quantité, un objet, mais le rapport entre un son et un autre son. Et en fait, le rapport qu'ils entretiennent, la distance entre les hauteurs, forme l'intervalle. Donc un intervalle, c'est une proportion. Et une fois qu'on a posé ça, qu'ils ont posé ça, ils vont essayer de le représenter de façon différente. Et par analogie, un rapport entre deux sons va devenir, par exemple, le rapport entre la longueur de deux cordes de tension identique, et finalement, le rapport de son devient de rapport de longueur, et donc ratio numérique. 1 sur 2, c'est le rapport de l'octave. Par analogie, le rapport de longueur des cordes. Et donc cette pensée analogique irrigue toute la théorie de la musique pendant des millénaires, on va dire, et on attribue ça effectivement à cette tradition. Donc ça, c'est un premier point qui me semble extrêmement important pour comprendre un petit peu leur logique.
Ce qui est très intéressant dans l'histoire de la gamme musicale, et alors ça c'est quelque chose qui est constant, je m'attendais pas à me confronter à de telles complexités mathématiques, Paul Lascabette, on va essayer de rendre tout ça intelligible, mais ça on peut le rappeler, dès Pythagore, il y a une grande complexité dans la composition et dans l'organisation de cette gamme musicale.
Oui, tout à fait. En fait, une gamme, c'est un ensemble de notes qui vont bien ensemble. Et donc, je peux peut-être commencer par illustrer avec le piano. Donc, tout d'abord, il y a quand on prend une note, la note qui lui est, qui si on prend une note, donc on va avoir une corde, on va la faire vibrer à une certaine longueur. Et si on divise cette longueur par deux, on va obtenir la même note, mais en plus aiguë. Donc, on va obtenir une octave. Donc là, par exemple, on va avoir une octave. Voilà, donc ça, je viens de jouer un do. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte à la Grèce antique, c'est que si on prenait d'autres longueurs, on allait avoir d'autres notes, donc qui allaient être très consonantes. Et par exemple, on peut avoir la quinte. Voilà, ça c'est une quinte. Et donc là, je passe de do à sol. Et tout à l'heure, on parlait de proportion. Et en fait, quand je regarde la proportion entre la fréquence d'un sol et la fréquence d'un do, il se trouve que c'est 3/2. Donc c'est un nombre qui est assez, c'est pas du tout lié au hasard. Et voilà, donc on voit les premiers liens en fait qu'on va avoir avec les mathématiques dans ces histoires de notes et de fréquences.
Ce qui est intéressant, c'est que vous évoquez les notions de consonance, de dissonance, do sol, ça n'existait pas cette appellation des notes là. Est-ce qu'on a une idée, Théodora Psychoiou, justement de ce rapport qu'avaient les Grecs anciens à la consonance, à la dissonance, et est-ce que la musique grecque antique pourrait heurter nos oreilles à nous qui sommes aujourd'hui habitués à une gamme musicale tempérée qu'on évoquera tout à l'heure?
Alors, effectivement, comme Paul Lascabette vient de le dire, on a des ratios qui vont former les intervalles, et c'est vrai que on va partir, Pythagore, les pythagoriciens, parce qu'on n'a pas de texte de Pythagore, une tradition théorique qui s'installe, nous explique combien finalement on fait cette enquête sur, par analogie, en jouant, si je puis dire, avec les longueurs des cordes.
Oui, l'instrument, on peut rappeler aussi l'instrument qu'utilisaient les pythagoriciens, enfin en tout cas l'instrument emblématique, c'est le monocorde.
Le monocorde, exactement, c'est le terrain de jeu, enfin c'est l'instrument de musique du théoricien, si on peut dire. Et donc sur le monocorde, on va avoir un petit chevalet mobile et on va comparer des fractions de longueur de corde avec la corde à vide, qui est le module. Et puis après, effectivement, on va avoir des ratios comme 2 sur 3 ou 3 sur 2, si vous voulez, pour le ratio de la quinte. Et en fait, l'idée de Pythagore, c'est de d'abord entendre les rapports simples, donc plutôt partir de l'intervalle, c'est d'envisager des types de proportions différents, et en partant sur les rapports simples, ce qu'ils appelaient des rapports simples, 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, et ces ratios-là de cordes forment l'octave pour 1 sur 2, la quinte 2 sur 3 et la quarte 3 sur 4. Et de façon mathématique, c'est-à-dire objective et univoque, on désigne ces premières intervalles issues des rapports simples comme des consonances. Et puis, les dissonances, puisqu'avec ce jeu de division, on peut aller très très loin dans les intervalles, évidemment les tierces, tierces majeures mineures, secondes majeures mineures, mais aussi des micro-intervalles qui sont tout à fait concevables sur le monocorde en tant que division différente de longueur de corde. Donc on part sur cette idée-là qui va avoir d'ailleurs un écho philosophique très fort, notamment dans ces textes importants et très très diffusés au Moyen-Âge, qui est le Timée de Platon, où on fait une prolongation entre ces intervalles de musique et une idée cosmologique de l'harmonie. Donc il y a ce chapitre du Timée, l'âme du monde est harmonique, et on a une déclinaison d'une série d'intervalles de musique en partant du plus simple jusqu'à la division la plus complexe.
Est-ce que vous pourriez préciser justement, ça c'est très intéressant de mettre en relation la musique et la notation, en tout cas l'organisation de la gamme musicale grecque avec cette harmonie des sphères et cette pensée cosmologique des antiques?
Oui, il y avait une idée d'essence essentielle, on va dire, de l'harmonie des rapports simples connectée à une idée de l'ordre du monde et a fortiori une idée esthétique. Donc il y a cette idée d'analogie, les rapports simples qu'on va entendre dans la musique, que les intervalles de musique représentent, rendent sensibles puisqu'on peut les entendre. Fondés sur ces rapports simples, définissent un peu le principe d'ordre, puisqu'on va le retrouver par analogie, on va le transposer. La première transposition est celle sur les cordes, sur le monocorde, mais aussi sur, par exemple, des principes d'architecture, mais aussi des principes d'équilibre de rapport au niveau du microcosme, le corps humain. On se souvient de cette planche de Léonard qui vient d'un traité d'architecture antique, du traité de Vitruve, donc cet homme qui est inscrit dans un cercle et dans un carré. Et en fait, ils avaient cette conviction que l'ordre et la beauté du monde est fondée sur la simplicité de proportion, c'est-à-dire sur ces fameuses consonances qui sont l'essence et en même temps le garant de l'ordre et de la beauté. Donc on a un principe esthétique qui va être fondé à ce moment-là et qui va irriguer aussi l'Occident médiéval jusqu'à très loin, puisque c'est aussi le principe esthétique de la Renaissance, notamment.
Paul Lascabette, donc on a évoqué ces notions d'octave, de quinte, de quarte, qui sont établies dès l'école pythagoricienne. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui vont durer dans le temps et qui vont prendre place dans les gammes modernes, on va dire, qui ensuite ont donné la musique, en tout cas la notation et la gamme musicale actuelle?
Oui, alors du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans le système pythagoricien, on est parti de la quinte. On est aussi parti de la quarte et évidemment de l'octave. Donc à partir de ces trois notes, on a créé toutes les demi-tons et tous les tons en fait pour obtenir toutes les autres notes. Et sauf que si j'essaie de répondre à la question, en fait ce qui s'est passé, c'est que avec ce système là, en partant des quintes et des quartes, on va approximer d'autres notes, et du coup on va avoir une sorte de dissonance quand on va vouloir par exemple jouer une tierce. Donc une tierce, c'est ça. Et une tierce, c'est très utile pour jouer des accords. En fait, à l'heure actuelle, on utilise énormément de tierces parce qu'une tierce, c'est ce qui est à la base de faire, par exemple, de jouer un accord majeur. Donc un accord majeur, c'est une tierce, c'est une quinte et la fondamentale. Voilà, c'est ça, c'est un accord majeur. Et du coup, puisque avec Pythagore, on part pas de la tierce, on a énormément de mal à avoir une tierce juste, parce que si on part des quintes et des quartes, on va avoir une approximation qui est assez fausse pour la tierce. Et du coup, il y a Zarlino, donc ça, on avance un petit peu dans le temps.
On en parlera tout à l'heure. Là, on va peut-être avancer justement. On va prendre notre temps. On va passer par le Moyen Âge avant d'arriver à la gamme des physiciens, à la gamme de Zarlino que vous évoquiez à l'instant. Mais Mais on va d'abord faire un petit détour quand même du côté de Charlemagne, du côté des moines, du côté de Dorémy Fassol la Sido, puisque ça aussi, ça a été inventé au Moyen-Âge.
Oh, Berlioz, s'il vous plaît, chérie, installez-vous. Faites-moi plaisir, chantez votre chanson.
Oui, maman. Do, mi, sol, do, sol, mi, do. Le vrai musicien répète avec ardeur de savante gamme et des arpèges. Mais il faut qu'il sache que sa voix doit sortir du cœur.
France Culture.
En chantant ses gammes et ses arpèges.
Eureka. Antoine Beauchamp.
Eh oui, c'est l'été, on se fait plaisir, on écoute les Aristochats alors qu'on va parler de moines du Moyen-Âge. Théodora Psicoiou, vous évoquiez tout à l'heure la notion de notation. Alors ça, est-ce que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué entre l'Antiquité et le Moyen-Âge? Et est-ce qu'on a des traces un petit peu de proto-partition et de gammes voilà, qui sont un petit peu organisées? Et si oui, selon quel principe? C'était déjà des lettres? Comment ça s'organisait ça?
Alors, en effet, on a chez les Grecs de l'Antiquité, on a deux systèmes, on va dire, parallèles. L'un, c'est ce fameux système des harmonies qui est pas finalement très documenté dans sa théorisation, mais d'où viennent aussi ces noms qui ont généré beaucoup de confusion par la suite, dorien, phrygien, etc., qui sont des gammes diatoniques. Il y a un autre système qui est extrêmement documenté et qui a été transmis au Moyen-Âge et qu'on retrouve après dans les théorisations au moment des réformes carolingiennes que vous évoquez, qui est le système d'Aristoxène. Alors, un petit mot sur la terminologie, parce qu'on a parlé de gamme, on peut parler d'échelle. Mm-hmm. Au Moyen-Âge, on va parler d'espèce d'octave, c'est-à-dire la façon dont on peut, à l'intérieur d'une octave, d'une note à son octave, disposer l'espace, donc avec les différents modes. Donc, espèce d'octave, c'est un langage de théoricien. Et les Grecs, pas que les Grecs d'ailleurs aussi, c'est un terme qu'on trouve souvent, jusqu'au XVIIe siècle au moins, c'est le système de musique, c'est-à-dire comment cartographier, baliser, comme vous le disiez au début de l'émission, l'espace sonore. Et donc c'est ce mot-là de système que va utiliser Aristoxène en organisant, en pensant l'espace sonore en termes de juxtaposition de modules. Et ces modules-là ne sont pas une octave, mais des tétracordes. Si mi, mi, la, par exemple, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Et donc, il organise un système avec une juxtaposition de modules symétriques qui vont cartographier un espace qui, d'ailleurs, dans le système complet, parce qu'il y a le petit système, le grand système, conjoint, disjoint, etc., mais le système complet, il se déploie sur une double octave. Et donc, ça, c'est le système d'Aristoxène qui est pas mal documenté. On peut ajouter une chose dans laquelle on n'aura pas le temps d'aller très loin, mais ces tétracordes, ils étaient de trois types différents, mm-hmm. qu'il appelait de trois genres. Le genre diatonique, composé de tons et de demi-tons. Le genre chromatique, qui à l'intérieur faisait succéder deux demi-tons à la série, ce qu'on trouve pas du tout dans les gammes diatoniques, comme dans... par exemple, si, do, do, ré bémol, mi, par exemple. Et enfin, là, ça fait aussi couler beaucoup d'encre, le genre anharmonique qui faisait juxtaposer, succéder des quarts de ton. De quarts de ton, et puis, pour tomber sur notre carte, un intervalle, un triton. Enfin, pardon, un triémiton, trois demi-tons. Donc, en fait, une partition différente à l'intérieur du tétracorde, selon trois espèces, diatonique, chromatique et harmonique. Donc ça, c'est ce que on a très bien documenté par Aristoxène de Tarente et d'autres théoriciens, et qui est transmis au Moyen-Âge. Donc c'est une base sur laquelle des choses vont se passer au IXe siècle.
Oui, il y a plusieurs choses qui se passent au IXe siècle. Alors bon, il y a un certain Charlemagne qui déjà entreprend d'unifier la messe au sein de son empire, donc ça va avoir une importance dans l'apparition de plusieurs types de notations musicales. On a parlé de, on a évoqué le fait que les notes étaient désignées sous des lettres en fait pour les organiser, on va dire A B C D E F G. Et on avance un petit peu puisque le temps file. On va arriver au 11e siècle. Alors je sais pas, Théodora Psicoiou, déjà si vous souhaitez dire un mot sur ce 9e siècle et son importance dans la préparation du terrain à l'apparition des notes telles qu'on les connaît, enfin appelées telles qu'on les connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous voulez absolument mentionné pour cette période du 9e siècle, ou bien est-ce qu'on saute directement au 11e siècle et à l'apport de Guido d'Arezzo?
Peut-être effectivement juste un mot très rapide sur le 9e siècle, parce que c'est un moment vraiment clé. Vous l'avez bien dit, Charlemagne souhaite, enfin, travaille sur l'unification de l'Empire, et ça passait aussi par l'unification du champ, et pour ça, il fallait trouver des moyens de l'organiser, de le structurer. Il y a deux grandes choses. C'est l'une, vous l'avez dit, c'est la notation, essayer de trouver de façon de le noter. Pourquoi? Pour pouvoir le communiquer. En fait, la notation émerge en fonction et prend forme en fonction de besoins qu'on a, et là, c'était ça l'idée. Et l'autre, c'était d'organiser toutes ces mélodies et on va l'organiser par type de mode, par type de gamme dans laquelle elle se déploie. Et donc du coup, on a la grande théorisation finalement des modes arrive à ce moment-là. Et pour dire les choses de façon rapide, ces modes ou tons d'église sont le résultat de la rencontre entre le système d'Aristoxène qu'on va, donc la vision théorique de la chose, et effectivement avec les sons qui sont marqués au moyen des lettres, un peu comme les repères qu'on ferait sur un monocorde lorsqu'on divise les longueurs, donc d'où le A, B, C, D, E, F, G, donc la si, do, ré, mi, fa, sol, A, B, C, D, E, F, G, qu'on trouve d'ailleurs, qui est utilisé dans le solfège allemand anglo-saxon, donc d'une part, et d'autre part, c'est de prendre toutes les mélodies, les chants, et de voir comment elles vont être adossées sur un mode. Comme disait souvent Marie-Noëlle Colette, notre grande médiéviste spécialiste de ces questions-là pour le Haut Moyen-Âge, le mode, c'est l'espace dans lequel une mélodie aime à être chantée. Donc on a les musiciens, les chantres d'un côté, les théoriciens de l'autre, on va essayer de faire rencontrer tout ça. D'ailleurs, il semblerait qu'on a perdu quelques mélodies en route parce qu'elles ne rentraient pas vraiment dans le canon. Et on a organisé l'espace, et donc on a cette modalité qui s'installe, mais qui est pensée sur le plan théorique avec les lettres et effectivement la division des modes, des intervalles, etc.
C'est très intéressant ce que vous dites, Théodora Psicoiou, parce qu'on sent déjà dans ce que vous dites quelque chose qui va durer, Paul Lascamet, dans toute l'histoire de la gamme musicale et de l'organisation de la musique. C'est une espèce de conflit, de tension entre les théoriciens et ceux qui pratiquent la musique. Est-ce que ça, de tout temps, ça a été vrai? Quand on parle de musique, il y a ceux qui la pensent d'une façon mathématique et qui essaient de l'organiser, etc., mais qui n'est pas forcément en accord avec ceux qui sont musiciens, qui composent ou qui jouent.
Est-ce que ça a été vrai? Je pense que oui, il y a une différence évidemment entre les modèles théoriques et ce qui se fait dans la musique. Surtout par exemple quand on prend un monocorde, par exemple si on prend un violon, ben les frettes elles sont pas indiquées sur le violon, donc on a beau savoir qu'on doit jouer cette note-là en théorie, ben en fait le violoniste il peut décaler ses doigts un tout petit peu pour jouer la note qu'il choisit. Donc oui, il y a sûrement un décalage. Après c'est vrai que avoir les modèles mathématiques, ça a développé les gammes telles qu'on les a aujourd'hui. Donc ça a apporté énormément à la musique. Et puis ce qui est super intéressant, en fait, bon, je pense qu'on va en parler, mais c'est qu'en fait les nouvelles théories que la science a apporté à la musique, ça a eu un énorme impact sur la musique en elle-même. C'est-à-dire qu'en fait on peut, quand on a découvert qu'on pouvait par exemple faire une gamme comme ci ou comme ça, ben en fait ça a eu un direct impact sur la musique. Et on s'est dit, ah ben tiens, maintenant on va pouvoir faire ce type de musique ou ce type-là de musique.
Il y a un aller-retour en tout cas.
Il y a un aller-retour constant entre théorie et
pratique.
Et surtout, la demande musicale. Donc en fait, si par exemple les musiciens veulent jouer telle note, ben en fait les théoriciens vont s'adapter, ils vont essayer de créer un nouveau système pour résoudre le problème des musiciens.
Théodora Psicoiou, une réaction?
Oui, je voulais juste ajouter que que la musique a un double statut depuis toujours, en fait. À la fois, elle est pensée à la fois comme art et comme science. Depuis Pythagore, elle est après l'un des sept arts libéraux, les disciplines du quadrivium mathématique à côté de la géométrie, l'arithmétique et l'astronomie. Plus tard, on peut continuer les différentes répartitions de l'espace disciplinaire jusqu'à l'IRCAM, Institut de Recherche Coordination Acoustique Musique. Donc en fait, cette dualité, ce double visage art-science est inhérent vraiment à l'objet musical, parfois de façon naturelle dans l'articulation et tout à fait harmonieuse, et parfois de façon un petit peu conflictuelle dans des petites disputes entre théoriciens, on va dire, et praticiens, les uns considérant que les autres font sans savoir rendre raison de ce qu'ils font, et les autres pensant, comme disait un polémiste à l'égard de Mersenne, qu'il pourrait expliquer les raisons, toutes les raisons d'amoter beaucoup plus qu'il ne saurait le faire. Donc on a cette question conflictuelle parfois, qui prend d'ailleurs qui s'exprime pas mal sur des questions de tempérament musical. Par exemple, je pense au XVIIe siècle, parce que le tempérament égal, on viendra tout à l'heure, a été pensé par les théoriciens très tôt, parce que c'est très facile à penser sur le papier, sauf que ça a été rejeté artistiquement par les musiciens.
Avant d'en arriver à ces questions de tempérament, on peut peut-être revenir à notre fin de Moyen-Âge, ou en tout cas au cœur du Moyen-Âge, au XIe siècle. On est dans le nord-est de l'Italie, un certain Guido d'Arezzo s'intéresse à quelques problèmes musicaux. Théodora Psicoiu, quels sont ces problèmes-là et qu'est-ce qu'il cherche à résoudre ?
Théoricien, donc Guido d'Arezzo, il est connu par ce traité dont le nom peut-être n'est pas inconnu à nos auditeurs, auditrices. Micrologus, donc c'est le titre de son traité, un traité de plus diffusé au Moyen-Âge qui a écrit vers 1026. Donc effectivement, là-dedans, et d'ailleurs un peu dans sa correspondance, il en parle. Lui, il se positionne comme un pédagogue, c'est-à-dire faire chanter le petit, la gamme, les notes, et bien entonner, c'est-à-dire bien savoir si entre Do et Ré, ou entre Mi et Fa, on a un ton, un demi-ton. Donc vraiment solfier au sens vraiment d'intonner, de ne pas chanter faux, quoi, de chanter juste les notes. Et donc pour ça, il travaille sur les intervalles, et il a l'idée de faire chanter les notes, de trouver un moyen mnémotechnique et de leur donner des noms plutôt que de penser en termes de lettres. Et donc, pour ça, en effet, il trouve, ou il a composé lui-même, cet hymne à Saint Jean-Baptiste, dont la mélodie, probablement d'ailleurs composée, parce que c'est vraiment très pédagogique, chacune des phrases musicales et de texte commence par une note, la première sur le C, on va dire, le D, les E, c'est-à-dire le Do, Ré, Mi, le Fa. Et en fait, ces syllabes-là, ut, ré, mi, fa, viennent de cet hymne, puisqu'il a pris la première syllabe de chacune des phrases, qui correspond à chacune des notes correspondantes, puisque chaque phrase commence sur une note différente par marche, on monte chaque fois d'un degré. Ut, quaeant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famulituorum, solve poluti, labi reatum, Sancte Johannes, la dernière phrase. Donc on a entendu ut, ré, mi, fa, sol. Voilà. Exactement.
Et on peut même peut-être on peut même l'écouter, ce chant-là, parce que comme ça on aura fait le tour de la question. On l'écoute.
Oh.
Voilà cet hymne de Guido d'Arezzo, fondateur, Teodora Psicoiou. Il invente non seulement donc le moyen mnémotechnique, comme vous le disiez, de mémorisation des notes et des tonalités qui les accompagnent, mais il participe aussi, je crois, à une création d'une sorte de proto-solfège également.
C'est tout à fait ça, avec donc d'abord c'est l'utilisation de ces syllabes, outre mi fa sol la. On peut se poser la question, mais...
Où est le si?
Qu'est-ce qui se passe avec le si? Voilà. Où est le si? D'ailleurs, d'aucuns remarqueront que Sancte Ioannes, le si, sont les initiales de Sancte Ioannes à la fin. Où est le si? Donc, effectivement, il propose, pour aider à cette problématique qui était la sienne, c'est-à-dire la juste intonation, de penser l'espace sonore non pas en termes d'octave, mais en termes d'hexacorde, c'est-à-dire outre mi fa sol la, ça fait six marches, et du coup on va parler d'hexacorde. Et ce module-là, il a une particularité, c'est d'être symétrique. On a deux tons de part et d'autre, et un demi-ton au milieu. Comme ça, les enfants, ils sauront chanter juste, ils vont apprendre de chanter le demi-ton qui est un intervalle un peu plus petit que le ton, c'est la moitié. Et donc, on a cette problématique-là. Du coup, il se trouve que dans le chant diatonique, dans les modalités médiévales, on va avoir trois demi-tons potentiels. Donc, effectivement, le mi-fa, ou pour utiliser les lettres, entre E et F. Mmh. Et puis, il y a cette question du B. Donc entre A et B, le La et le Si, on va dire, j'essaye d'éviter de parler de Si pour simplifier la chose. Et en fait, ce Si, c'est une note, on a souvent dit, c'est une note mobile, en fait, en fonction de la morphologie de la phrase. Soit il va être bémol, et il va être attiré vers le La, comme dans le mot de Ré, par exemple. Ta ta ti ra 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 ti ra ri. Selon si je descends ou si je monte, la hauteur va être un petit peu différente. Donc soit il va être le B en deux mots, et là aussi les auditeurs vont reconnaître un autre terme. Le B, soit il est molle, bémol, soit il est carré, bécart.
Donc ça aussi, toutes ces appellations dièse, bémol, bécart, ça apparaît au Moyen-Âge.
Alors, le bémol, le B carré, le dièse un peu plus tard, ça apparaît au Moyen-Âge pour qualifier la nature du B, du Si. Soit un demi-ton vis-à-vis du La, soit un demi-ton vis-à-vis du Do. Et donc, ce qu'on va utiliser comme signe plus tard, lorsqu'on va introduire des altérations, et d'ailleurs des altérations nombreuses dans la musique, on va employer ces mots-là, qui sont finalement des vestiges du système de Guido. Parce qu'en fait, l'idée de Guido, c'est j'utilise que ces six syllabes-là, outre mi fa sol la, et si je sors de l'hexacorde, bah, je le déplace. C'est-à-dire, je peux solfier en disant outre mi fa sol la mi fa, pour arriver jusqu'au Do. C'est-à-dire, je change l'hexacorde, donc il a une espèce de système d'escalier où finalement, mon out, je peux le placer sur le Do, sur le Fa. Si je le place sur le Fa, mon B, il est bémol. Et si je le place sur le Sol, mon B, il est carré, il est bécart. Donc, on a un système glissant. Du coup, l'exercice, pour nous, ça paraît un peu exotique, hein, mais pour eux, ça avait l'air de marcher très bien. Donc, l'exercice consiste à glisser, à changer d'hexacorde, de sorte à savoir toujours où se place mon demi-ton. Donc, c'était un moyen mnémotechnique. Et ce système-là, on appelle cela la solmisation. Et donc, comme ils avaient l'habitude de désigner le demi-ton, selon la nature du B, carré ou mol, ensuite, ces altérations qui vont arriver plus nombreuses vont faire que ce glissement d'un hexacorde à l'autre va se démultiplier. Ça va devenir assez compliqué jusqu'à ce qu'on l'abandonne progressivement. Mais l'abandon complet de ce système des hexacordes et l'introduction, la généralisation de la syllabe si intervient quand même assez tard, peut-être plus tard qu'on le penserait, parce que la généralisation de la syllabe si par les musiciens dans les méthodes de musique n'arrive vraiment que à la deuxième partie, à la fin du XVIIe siècle, et on trouve ce système d'hexacordes et de solmisation jusqu'à assez tardivement, par exemple encore dans des méthodes de solfège du Conservatoire de Paris, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Après, ça dépend aussi des répertoires, mais enfin, on parle de la musique, la musique figurée, de la musique qu'on apprend dans les écoles.
Et qui sont des écoles avant tout d'abord religieuses.
Qui sont des écoles religieuses, oui. Pendant longtemps, en tout cas pour la France, et jusqu'à la fondation du conservatoire à la fin du XVIIIe.
Alors, puisqu'on parle de religion, on va faire un petit détour avec le sourire du côté de Kaamelott.
Mais enfin, Père Blaise, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez contre les tierces ?
Ça me fait gerber.
Sire, faites une tierce.
Ah non, vous faites une tierce, je me tire.
Majeur ou mineur ?
Mais qu'est-ce que c'est ces conneries là ? Majeur, mineur, mais c'est pour les dégénérés ! Il y a un seul truc de valable. C'est juste, 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 juste. Mineur.
Oh.
Oh, mais arrêtez, hein, je vais mettre un dégobillé sur la table ronde. Bon, vous faites une pédale sur dièse ciré.
Dièse ciré.
Là, c'est bien, et là, vous, sire.
Non, non, vous, sire, sire, il se casse parce qu'il en a ras-le-bol.
Sire, vous reprenez à la quinte juste.
Dièse ciré.
Voilà. Là, c'est propre, c'est harmonieux.
Oui, mais avec quelques fioritures, on passe très rapidement sur une petite sixte, et c'est joli.
Et c'est de la merde.
Sire, une petite variation.
Oh, mais vous êtes des malades !
Je vous préviens que si on met pas l'euro, là, tout de suite, dans 10 ans, tout le répertoire musical est pollué.
Il faut plutôt voir ça comme une évolution.
Il faut interdire les intervalles non justes, c'est tout.
Sire, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, d'abord, moi, j'en ai pas grand-chose à carrer. Sinon, moi, toujours des quarts, des quintes, des octaves, c'est un petit peu tendance à me gonfler, d'autant que je supporte très bien les tierces et renversements de tierces. Et j'allais même dire, un petit intervalle diminué de temps en temps.
Diminué ? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ?
Borte, une pédale ? Enfin, je veux dire.
Il n'y a pas de mal.
Diabolus !
On entend le père Blaise hérissé par cet intervalle dissonant. Du coup, Théodora Psicoiou, ça avait une réalité. On parle souvent de ce Diabolus in Musica, de cet intervalle entre le Fa et le Si, qui était l'incarnation musicale du diable, le triton. Ça, c'est une légende ou c'était vrai?
Ça me fait rire parce que la séquence est vraiment très drôle et on sent qu'il y a une base vraiment
véritable,
musicalement. Oui, oui. Donc, bon on a parlé de ça, surtout en termes de polyphonie. Je pense qu'on a un peu surinvesti cette idée d'incarnation du mal. Mais en effet, les premières polyphonies, et on l'entend très, très bien dans cet extrait qui est très drôle, mais en fait tout à fait juste, si je peux employer ce terme, du coup, était fondée sur un principe de consonance, c'est-à-dire le garant de l'harmonie, pour y venir ce qu'on disait au début de l'émission à propos de Pythagore, de l'harmonie, cette fois-ci verticalement parlant, de la polyphonie, c'est l'usage des consonances, donc c'est-à-dire sur les appuis, sur les cadences, on va utiliser des consonances qui au début sont effectivement, comme on le disait, définies de façon objective. C'est pas une question, ça me plaît, ça me plaît pas, agréable ou désagréable, la première définition, la consonance, ce sont des rapports simples, donc octave, quarte, quinte. Donc les premières polyphonies mobilisent des quartes, des quintes et des octaves. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le langage musical évolue, on va introduire déjà d'autres intervalles dont on aimerait bien qu'ils aient le statut de consonance, et c'est le cas de la tierce, tierce majeure, mineure, et puis du coup, symétriquement, la sixte. Et on va s'arranger, si je puis dire, pour faire en sorte d'élargir le périmètre de la consonance en jouant avec les rapports simples. Tout à l'heure, on a parlé 1 pour 2, l'octave, 2 pour 3, la quinte, 3 pour 4, la quarte. Si on pousse 4 sur 5 et 5 sur 6, qu'est-ce qui se passe sur le plan sonore? On introduit la tierce majeure et la tierce mineure. Mm-hmm. Et c'est ce qui se passe ce que essaye de faire théoriquement Zarlino avec cette histoire de scénario, c'est-à-dire aller jusqu'à 6 plutôt que jusqu'à 4 pour faire entrer dans le périmètre des consonances, et c'est-à-dire des intervalles qu'on va pouvoir utiliser dans la polyphonie, dans les cadences, c'est-à-dire dans les appuis, dans les temps forts, mm-hmm, aussi la tierce et la sixte. Pourquoi? Parce que ce que faisaient déjà les compositeurs. Donc on essaye d'amender la théorie pour qu'elle réponde convenablement à la pratique, en étant toujours fondée sur ce principe esthétique-là, c'est-à-dire harmonie, beauté égale usage des consonances. Et après, ça va partir tellement loin qu'on va changer de principe esthétique, ça va simplifier les choses.
Et restez avec nous, parce que justement, on va poursuivre dans un instant cette histoire de l'évolution de la gamme musicale, et on va en arriver à cette gamme de Zarlino.
La majeure. La majeure. La majeure.
majeur.
Par Philippe Catherine dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'invention de la gamme musicale. Nous en parlons avec Théodora Psicoiou, maîtresse de conférences en musicologie à Sorbonne Université et directrice de l'Institut de recherche en musicologie. Nous sommes également en compagnie de Paul Lascabette, doctorant à l'IRCAM et créateur de la chaîne YouTube Mathé Musique. On entend le classique Paul Lascabette accordage de l'orchestre symphonique. Une question qui m'est venue en préparant cette émission, c'est depuis quand le la est au centre de ces accords? Et pourquoi est-ce qu'on en a fait l'accord autour duquel tout un orchestre va s'organiser?
Depuis quand le la est au centre de,
ouais.
de
tout ces accords? Pourquoi est-ce que le la en fait est un peu la note de référence et vers laquelle finalement, autour de laquelle un orchestre va
voilà. Alors, si on regarde au niveau des fréquences, donc un son, on peut le voir. Si un physicien en fait, il va voir un son comme une fréquence, comme quelque chose qui oscille en fait, et en fait le la, ça physiquement, ça se définit comme le son qui a une fréquence qui est égal à 440. Donc en fait c'est un nombre rond.
440 Hertz,
voilà, c'est ça. Donc c'est 440 oscillations par seconde. Et à partir de là, physiquement, ça se définit assez bien. Et en fait, en appliquant toutes les proportions dont on a parlé au début de l'émission, on va pouvoir construire, on va pouvoir bien définir avec des nombres entiers en fait les autres notes, les autres notes de la gamme.
Théodora Psicoiou, une réaction?
Oui, en effet, comme Paul vient de l'expliquer, il s'agit d'un étalon, en fait, d'une norme de hauteur. Au XVIIe siècle, on a compris que la hauteur d'un son dépend du nombre de vibrations. On ne parle pas encore ni de diapason à fourche qu'on frappe et qui nous sort notre la 440, ni de la spécifiquement. Donc il y a eu des théoriciens, des acousticiens. Il y a un certain Joseph Sauveur, premier acousticien à l'Académie royale des sciences, qui a fait des expériences pour définir ce qu'il appelait un son fixe. Et il a réussi à mesurer, parce que le défi c'était de dire si j'ai un son dont je connais la fréquence, après je peux connaître tous les autres, comme Paul vient de l'expliquer, un peu ne serait-ce que par la méthode des trois. Et donc le premier étalon, il est parti sur 100 vibrations par seconde et il a trouvé que ça correspondait à peu près à un mi. Mmh. Le diapason à fourche, on l'attribue à un trompettiste anglais, l'orchestre de Handel, donc au début du 18e siècle. Et après, le diapason à 440, c'est déjà partir sur le la et spécifiquement sur 440, c'est une histoire un peu plus tardive.
Un peu plus tardive, oui, au 20e siècle. Oui, au 20e siècle,
on a plusieurs diapasons sous cloche. Avec des fréquences différentes.
On revient du coup à notre histoire de l'évolution de la gamme musicale. Là, on a passé un petit peu le Moyen-Âge. Paul Lascabette, on peut arriver à ce Giosefo Zarlino. Alors, quelle importance il a eu, lui, dans l'évolution de la gamme musicale? Et qu'est-ce qu'il cherchait, lui aussi, à résoudre comme problème autour de l'organisation des notes?
Oui, alors en fait, dans l'extrait audio qu'on a eu tout à l'heure, il parlait d'intervalles justes. Et donc dans le système pythagoricien, quand on regarde une quinte, la proportion entre la fréquence justement d'une quinte et de la fondamentale, ça va être 3/2. Et en fait, si on part de là, donc on est parti de là justement pour définir toutes les autres notes. Donc on a pris la quinte d'une quinte, la quinte d'une quinte d'une quinte, etc., etc. Et en fait, si on fait ça, on arrive à la tierce. Donc la tierce ça c'est un intervalle, donc c'est une tierce. Et en fait, là, ce qu'on aimerait bien, ce serait justement avoir un intervalle qui se définit un peu de la même façon que 3/2. Donc, si on regarde le rapport de fréquence entre une tierce et la fondamentale, on aimerait bien avoir 3/2. Et il se trouve que dans le système pythagoricien, la tierce, elle est assez mal définie. En fait, la tierce, voilà, ça vaut 80 sur 64. Donc c'est pas un nombre qui est assez joli. Et du coup, ce que Zarlino a fait, et ça c'est un peu embêtant parce qu'une tierce c'est très utile dans la musique, et surtout dans la musique d'aujourd'hui. Et donc ce que Zarlino il a dit, la tierce, au lieu de la définir comme ça, je vais partir de la tierce et je vais la poser. Je vais dire que la tierce ça va être égale à 5/4. 5/4, ce qui est beaucoup plus beau, ce qui est si on regarde la proportion. Et à partir de là, du coup, il a pu définir une tierce plus juste. Donc ça a été très important dans la musique parce qu'avec la tierce, justement, on peut avoir un accord majeur, donc avec une tierce majeure. Voilà, donc ça, c'est un accord majeur. Ça a eu un énorme impact parce que c'est dans la musique, parce que c'est là où on s'est mis justement à pouvoir utiliser beaucoup plus d'accords majeurs, alors qu'avant on utilisait beaucoup plus des accords de quinte. Ça a eu un impact, oui, voilà, au niveau du musique.
Théodora Psicoiou, sur cet impact et cet effet de la gamme de Zarlino et sur ses limites peut-être qui vont être résolues ensuite ou en tout cas questionnées.
Oui. Ce qu'on peut ajouter pour compléter ce que Paul Ascabet a très bien expliqué, c'est que nous avons un problème en fait de définition de la quantité, de la taille exacte des intervalles selon la façon dont on parvient pour le définir. Tout à l'heure, je disais que voilà, Zarlino effectivement va pousser, on vient de l'être dit, ces rapports simples, 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, si on prend 4 sur 5, on a effectivement une tierce pure. Tout à l'heure, Paul a donné un autre ratio. D'où vient-il? En fait, on peut définir un intervalle en partant directement par son ratio sur un monocorde, comme 4 sur 5 pour la tierce majeure, mais on peut aussi, en accordant par exemple un instrument, comme on va faire lorsqu'on accorde un clavecin, de l'extraire par la combinaison d'autres intervalles. Et pour la tierce, prenons un exemple, si je juxtapose quelques quintes, do, sol, sol, ré, ré, la, mi. J'arrive sur un mi. Si je superpose des quintes, je commence par le do, j'arrive sur le mi. Alors ce mi-là ne va pas avoir ce do-mi, dont le mi est défini par la juxtaposition de quintes au ratio 2 sur 3, va pas être exactement le même que le mi qui vient de la division 4 sur 5. Et de là commencent les problèmes, et c'est la même chose pour lorsque je juxtapose des octaves et des quintes. Si je juxtapose 12 quintes sur 7 octaves, je vais arriver sur do, do d'un côté, et do, si dièse, do, sol, sol, ré, ré, la, mi, mi, si, etc., jusqu'à mi dièse, si dièse, et mon si dièse, manque de bol, ne tombe pas sur le do, il tombe au-dessus. Et donc, effectivement, ce problème ne pose pas, ce phénomène plutôt physique ne pose pas de problème pour les chanteurs, puisqu'on s'adapte, mais par contre, lorsqu'il s'agit d'accorder un clavecin ou un orgue, ou de régler une flûte en creusant deux trous, ah ben là, il faudra qu'on sache où est-ce qu'on met notre note. Et donc, effectivement, les efforts de Zarlino et d'autres viennent, et ça vient à une époque où la musique instrumentale aussi se développe, et qu'on fixe un peu les... Et
ça, c'est très intéressant, d'ailleurs. Il faut l'évoquer, fait qu'il y ait une évolution, Paul Ascabet, des instruments, qui va aussi conditionner l'évolution de la gamme musicale, l'évolution de la composition. Là, on comprend donc qu'avec le système de Zarlino, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut pas avoir dans un même système des octaves juste et des quintes justes qui superposent assez bien. Là-dessus arrive un personnage qui est Andreas Werkmeister. Là, qu'est-ce qu'ils vont chercher à mettre en place justement ? Et j'ai l'impression que toute l'histoire de l'évolution de la gamme musicale telle qu'on la connaît, c'est une histoire de simplification. Est-ce que c'est vrai ? Et qu'est-ce qui se passe là au tournant du 16e, du 17e et du 18e siècle ?
Bah alors du coup, donc ce qu'on disait, c'est que si on part de Pythagore, elle est partie des quintes. Et en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on joue 12 quintes successivement, on aimerait bien arriver sur un do. Mais le problème, c'est que donc si on prend une quinte, on va avoir 3 demi. Donc on reprend une quinte, on multiplie par 3 demi. On reprend une quinte, on multiplie par 3 demi. Et en fait, une octave, c'est une puissance de 2. Et du coup, mathématiquement, on s'est rendu compte assez vite que ça pourrait jamais marcher. Donc en fait, 3 demi va jamais boucler sur une puissance de 2. Et du coup, on a un problème. Et l'idée, donc Zarlino, il a essayé de définir la tierce et de partir des tierces, mais il y a toujours ce problème de si on part de la tierce et qu'on définit une tierce bien, si on prend la tierce d'une tierce, la tierce de la tierce d'une tierce, etc., ça va mal boucler. Et du coup, l'idée qui a tout changé en fait, et c'est encore ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est qu'on part d'une octave, on part d'une octave, donc on a un rapport entre les deux fréquences qui est un rapport qui est égal à 2, et en fait on va diviser, au lieu de dire bah, je vais fixer ma quinte, je vais fixer ma tierce, je vais fixer ma quarte, avec des nombres qui sont très jolis comme 3 demi, 4 tiers, 5 quarts, mais en fait on va juste diviser mon octave en 12 parties égales pour justement créer le tempérament égal, et en fait comme par magie si on divise mon octave en 12 parties égales, en fait on tombe très près des approximations qui avaient été faites, on tombe assez proche de la quinte, donc on tombe assez proche de la quinte, de la quarte et de la tierce, et du coup en fait ce système assez simple, c'est ce qui a été défini avec le tempérament égal, et c'est ce qui est encore utilisé aujourd'hui.
On ne pouvait pas parler de la gamme musicale et de tempérament égal sans diffuser un petit extrait célébrissime du clavier bien tempéré de Bach, Theodora Psychoiou. Là, vraiment, est-ce que à partir du XVIIe, XVIIIe siècle et cet établissement du tempérament égal, on a la gamme musicale peu ou prou telle qu'on s'en sert aujourd'hui ?
Oui. Comment dire ? Paul Lascabette a parfaitement bien résumé la chose du point de vue des mathématiciens. C'est-à-dire que, effectivement, c'est très très simple. Si tout ce qui dépasse, on le divise par 12, et on enlève cette 12e partie dans chacun de demi-tons, on tombe sur ce qu'on appelle le tempérament égal, et ça marche très bien. Or, c'est quelque chose que les musiciens n'aimaient pas du tout. En fait, il faut se dire que là, en tout cas au départ, que la question du tempérament musical, c'est une question de triple compromis. Sur le plan de l'esthétique, on aimait bien quand même avoir conservé, en tout cas au XVIIe, XVIIIe siècle aussi,
au début du XVIIIe siècle, où
conserver un maximum d'intervalles purs, c'est-à-dire ceux correspondant à la résonance naturelle, c'est-à-dire celui de la...
Théodora Psychoiou,
par exemple 4 sur 5 pour la tierce, etc. On souhaitait aussi éviter d'avoir des intervalles faux, et on souhaitait aussi l'avoir sur des instruments jouables, qu'on puisse les toucher et moduler librement. Mmh. Donc en fait, cette question arrive assez graduellement sur l'adoption du tempérament égal. Par exemple, le clavier bien tempéré de Bach ne veut pas dire bien tempéré en tempérament égal. Mmh.
Paul Lascabette, on peut parler quand même de cette œuvre de Bach et de l'importance qu'elle a. En quoi c'est une prouesse cette composition-là, et comment ça pose justement, d'un point de vue de la composition, ça expose la variété du chant qui est permis par ce tempérament égal.
Oui, alors le tempérament égal, c'est sûrement une des œuvres musicales les plus importantes qui a jamais été faite. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que avant d'avoir ce tempérament égal, on pouvait pas faire des transpositions musicales. Donc une transposition, ça veut juste dire, par exemple, on joue un morceau et on veut le jouer un peu plus aigu ou un peu plus grave. Mais ça, en fait, vu que notre note, elles étaient définies par rapport à une note de base, ben en fait, ça allait fausser. On allait avoir des fausses notes. Et en fait, vu que nos instruments, ils étaient construits d'une certaine façon, ben en fait, on préférait certaines tonalités à d'autres. Par exemple, on préférait jouer certains morceaux en tonalité de ré que en do, par exemple. Avec ce clavier bien tempéré, Bach, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, moi, je vais composer un morceau dans chacune des tonalités possibles. Donc, on a 12 notes, donc on a mineur ou majeur pour les 12 notes. Donc, il a composé une prélude et une fugue, donc qui sont deux types de morceaux différents dans chacune des 24 tonalités possibles. Et en fait, ça démontre que, en fait, on peut composer des morceaux dans toutes les tonalités possibles. Et il a fait deux livres, donc il en a fait un premier en 1722 et un en 1744. Et en fait, c'est deux livres qui ont eu un impact énorme sur la musique, parce que ça veut dire que du coup, on peut composer des morceaux en partant de n'importe quelle note. Et puis c'est surtout des morceaux comme celui qu'on vient d'écouter là, c'est un morceau qui est encore très connu aujourd'hui et très écouté aujourd'hui. Et c'est des morceaux qui sont étudiés, qui sont mine de rien très complexes et d'une très grande richesse.
Théodora Psikhoiou, sur ce tempérament, sur cette gamme tempérée qui perdure aujourd'hui, alors il nous reste très peu de temps, mais on peut peut-être évoquer l'évolution de cette gamme musicale et le fait que l'évolution de la composition musicale, l'évolution aussi des recherches musicales, on parlait de l'IRCAM tout à l'heure, et des écoles de musique contemporaine, notamment au XXe siècle, qui ont essayé de pousser dans leur retranchement cette gamme musicale là, est-ce qu'on peut envisager le fait qu'elle évolue encore ?
Oui. Et pour préciser une chose par rapport à ce qui se passe à partir de Bach, on entre vraiment dans cette question, dans cette ère du langage tonal, plus que la transposition, c'est surtout, ça libère cette adoption du tempérament égal, la libre modulation à l'intérieur d'une pièce. Parce que pour la transposition, pouvait transposer avant, et d'ailleurs ça donnait des couleurs spécifiques aux différentes gammes. Charpentier, par exemple, parlait de l'énergie des modes en disant oui, do majeur n'a pas la même couleur que ré majeur, qui n'a pas la même couleur que si dièse, si bémol, etc. Et donc ça donnait des petits caractères spécifiques qu'on pensait pouvoir définir au XVIIe siècle. Si on nivelle toutes ces différences en fait entre la nature des intervalles, on efface cet effet-là, mais on peut en revanche moduler complètement librement à l'intérieur d'une pièce, comme on va le voir dans les sonates de Beethoven par exemple. Donc ça libère complètement de ce côté-là la façon dont on va explorer cet espace musical. Mais par rapport à votre question, effectivement, là, on peut imaginer, on peut évoquer des gammes, parce que là, on parle de gammes de sept marches à l'intérieur d'une octave. D'autres types, on peut parler de gammes par ton, on peut parler de gammes d'échelle pentatonique, par exemple. Et puis, effectivement, l'emploi le plus massif des micro-intervalles que la musique contemporaine va adopter pour casser un peu ce côté de marche de cette note à l'intérieur d'une échelle.
Trop cloisonné.
On va décloisonner. Même ce côté de succession de sons discrets, de marches d'un son à un autre son, en employant des glissandi, les sirènes de Debussy, par exemple, c'est un des premiers à le faire.
Théodora Psikhoiou, je dois malheureusement vous interrompre. Par contre, ce qui est charmant, c'est que les cigales ont attendu la fin de l'émission pour se mettre à chanter sur une émission sur la gamme musicale. C'est quand même pas rien. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Théodora Psikhoiou et Paul Lascabette, de nous avoir accompagnés dans cette histoire de la gamme musicale. On termine en musique, Paul Lascabette, avec un de vos choix musicaux. Pas que la musique savante qui questionne cette gamme musicale. Paul Lascabette, c'était votre choix. King Gizzard and the Lizard Wizard, Doom City.
Oui, tout à fait. En fait, donc, de, ce qu'on a parlé depuis le début de l'émission, donc on a parlé de cette gamme majeure, et donc on a divisé l'octave en 12, et puis on a choisi cette note parmi ces 12 divisions. Mais en fait, on peut faire ça, on peut faire différemment. Par exemple, dans l'extrait là qu'on a écouté juste à l'instant, c'est un exemple de musique microtonale. Donc en fait, là, on a pas divisé en 12, mais on a divisé en 24, et du coup, on a des notes qui n'existent pas dans notre système à nous, et ça permet d'avoir des musiques beaucoup plus riches et différentes de ce qu'on a l'habitude d'écouter.
Un grand merci à toute l'équipe d'Eureka. La technique aujourd'hui, c'était Grégory Wallon. Grand merci Grégory pour la mise en place du clavier et du dispositif musical. Vous pouvez, comme chaque jour, écouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans le grand bain d'Eureka. Et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir.
Chloé ?
Oui ?
T'es bien ? Je vais te montrer les étoiles.
Moi, les étoiles, je suis pas contre. Surtout si ça me fait aller me coucher plus tard.
Le premier podcast France Culture, Savoir et Science, dédié à la jeunesse. Les mondes de Chloé. Le nez en l'air et la tête dans les étoiles. Histoire de grandes et petites ours. Entre fiction et astronomie, la première saison consacrée au ciel et aux constellations. Les mondes de Chloé, à la belle étoile, par Alice Buteau et Charlotte Roux, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.